Bonsoir, 24 février 2013, 24 février 2014. Cela fait une année que l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé entre la RDC, les pays de la région des Grands Lacs et les partenaires extérieurs. Objectif de cet accord, mettre fin à la crise qui secoue la RDC et la région des Grands Lacs. Quel bilan dressé une année après de l'application de cet accord cadre par les différentes parties? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 24 février 2014. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats François Mwamba, coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Monsieur Mwamba, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Arsène Mwaka, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFL. Professeur Mwaka, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Kabingele, coordonnateur national du réseau pour la réforme des services de sécurité et de la justice. Vous avez participé à l'élaboration du rapport préliminaire sur l'état des lieux de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098. Monsieur Kabingele, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Accord cadre d'Addis Abeba, cela fait une année ce 24 février 2014, depuis qu'il a été signé dans la capitale éthiopienne pour ramener la paix dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. À l'occasion, une conférence débat a été organisée par le mécanisme national des suivis de cet accord ici à Kinshasa. Et pour son coordonnateur national, bien que l'on note beaucoup d'avancées, le chemin reste encore à parcourir. Puisque nous parlons de cet accord cadre d'Addis Abeba qui fait tout autant des recommandations à la RDC, aux pays de la région des Grands Lacs et à la communauté internationale. Voyons avec Innocent Olinga les grandes lignes ou les engagements de chaque partie.
L'accord cadre d'Addis Abeba recommande au gouvernement de la RDC de renouveler son engagement à continuer et d'approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police, de consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Le même accord cadre recommande aux pays de la région un engagement renouvelé à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, à ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés, à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins, à ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous le régime des sanctions des Nations Unies. Et enfin, à la communauté internationale, l'accord cadre demande au Conseil de sécurité de l'ONU de rester saisi de l'importance d'un soutien à la stabilité à long terme de la RDC et de la région des Grands Lacs.
Merci Innocent Olinga. Les avis sont partagés quant au bilan, une année après, de l'application de cet accord cadre d'Addis Abeba. Suivant les points de vue des quelques acteurs politiques et acteurs de la société civile, joint par Samuel Kachak.
Christophe Lutsundola Pala, député élu du parti MSD, cofondateur de la plateforme majorité présidentielle. Premièrement, l'accord d'Addis Abeba a le mérite d'avoir été conclu, d'exister, d'être revendiqué par toutes les parties concernées. C'est un élément positif. C'est un processus. On ne peut pas penser qu'en l'espace d'une année, on remplirait tout le programme qu'implique l'accord d'Addis Abeba. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons appliqué l'accord. Il existe aujourd'hui un comité de suivi de l'accord. Le président de la République a initié les concertations nationales qui se sont tenues pendant un mois l'année dernière. Il y a eu amnistie, il y a eu des mesures de grâce et de réduction des peines dans le cadre de la réconciliation nationale. Nos militaires ont été requinqués. Nous notons malheureusement que du côté de nos partenaires, Uganda, Rwanda, nous n'avons pas d'éléments qui nous convainquent. Ils sont aussi engagés que nous. Du côté de la communauté internationale, certes, nous avons la MONUSCO qui a été renforcée avec une brigade spéciale, mais l'accord d'Addis Abeba a un volet financier important Et de ce côté-là aussi, il n'y a pas un frémissement qui puisse encourager.
Emery Okundji Ndiovu, député élu du Bonus, parti politique d'opposition. L'application de l'accord cadre pose encore problème par le pays agresseur, signataire de cet accord cadre. Bien que à l'intérieur, il y a encore beaucoup à faire en termes de réconciliation, en termes de cohésion nationale et d'unité nationale. Vous remarquerez que la République démocratique du Congo a beaucoup fait par rapport à ces pays concernés. Vous constaterez que cet accord est même violé. Vous constaterez aujourd'hui que les ex-rebelles du M23 qui ont été chassés par le FARDC se trouvent jusqu'aujourd'hui en Ouganda et au Rwanda en violation de l'accord cadre d'Addis Abeba.
Jonas Chombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. Nous pouvons dire qu'il y a eu des avancées timides de l'accord cadre, du moins au niveau de notre pays. Il y a eu la nomination, la mise sur pied d'un mécanisme national de suivi. Dans ce mécanisme national de suivi, il est prévu un comité consultatif qui, du reste, n'a jamais vu le jour. Il est prévu dedans que la société civile y soit associée. Elle n'a jamais été associée. Au niveau sous-régional, nous sommes en train de vivre et regrettant même le fait que le pays comme le Rwanda serait en train de réarmer les groupes armés. C'est contraire à ses engagements, à ses obligations au niveau de cet accord. Et cet accord présente une faiblesse, le fait que il n'y a aucune contrainte en termes de punition ou bien de sanctions à l'endroit du pays qui ne respecterait pas ses engagements.
François Mwamba, je rappelle que vous êtes coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et à l'occasion de ce premier anniversaire de la signature de cet accord cadre, vous avez organisé une conférence débat. Et au cours de cette conférence, vous avez souligné que l'on note beaucoup d'avancées, mais le chemin reste encore à parcourir. Ces avancées, vous les notez sur quel plan?
Bon, d'abord, l'accord cadre. Pourquoi faire? L'accord cadre, c'est, vous l'avez dit, la recherche de la paix pour la RDC et pour la région. En ce qui nous concerne, c'est la situation qui prévaut dans l'est de la République du Congo, mais pas seulement. L'accord cadre, c'est cet accord qui doit pouvoir conduire la République du Congo et l'ensemble de la région à une situation de stabilité en vue de pouvoir aller au développement. Donc vous voyez très bien que c'est un accord très large. S'agissant des aspects court terme qui avaient leur place dans les 12 mois qui viennent de se passer, on doit pouvoir noter, nous Congolais, que grâce à cet accord cadre, nous avons pu effectivement, en combinant les aspects, comme le président de la République l'a indiqué, politique, diplomatique et militaire, surtout militaire, nous avons pu mettre fin à l'aventure du M23. Nous sommes dans une phase maintenant de nettoyage, parce qu'il n'y avait pas que le M23, c'est l'ensemble de forces négatives qui doivent disparaître de notre espace. Les opérations sont en cours en ce qui concerne les ADF. Très bientôt, il est programmé de frappe en ce qui concerne les FDLR. Nous avons progressé également en ce qui concerne la situation sécuritaire qui fait partie effectivement de ces engagements que nous avons pris au plan interne. Je parle là de l'aspect de l'armée, je parle de l'aspect de la police. La police malheureusement a subi une sorte de douche froide dernièrement puisque ce qui avait été prévu pour l'année 2014 en termes budgétaires n'a pas été alloué à cette police. Quand ça ne va pas, il faut aussi le dire.
Et donc, ça, c'est un point. Ça, c'est un point noir.
Ça, c'est un point noir, effectivement. Mais l'alerte a été donnée et toutes les autorités concernées sont en train de s'atteler à pouvoir redresser cette situation parce que ça ne peut pas rester en l'état. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, et pour l'ensemble des engagements pris en interne, la République du Congo est en train de faire certes, non sans difficulté, mais le bout de chemin dans la mise en œuvre de ces engagements. Je dois noter, le professeur Lutundula l'a dit tout à l'heure, que au niveau de la région, hélas, la situation ne se présente pas de la même manière. Je partage les inquiétudes, notamment en ce qui concerne la présence de forces négatives dans certains pays voisins. Et cette question-là, nous sommes en train de la traiter en tant que gouvernement. Pourquoi ? Parce que maintenant que l'amnistie est passée, il faut aussi se rendre compte que certaines choses ne pouvaient pas se faire sans cette amnistie. Bon, maintenant qu'on est passé par là, l'heure est venue de clarifier cette situation, notamment la présence des ex-M23 notamment en Ouganda. Voilà.
Il Est-ce reste que ça encore veut
beaucoup
dire
de travail. Excusez-moi, que... mais je disais simplement pour conclure qu'il reste beaucoup de travail parce que, une fois de plus, ayons à l'esprit que Accord Cadre, c'était pas Kampala. Accord Cadre, c'est pas que la question de sécuritaire. C'est donner de la stabilité à l'ensemble de la région, commencer par la RDC, pour pouvoir aller au développement. Donc les questions économiques, les questions financières qui ont été évoquées sont importantes.
L'accord cadre, c'est aussi la consolidation de l'autorité de l'État, la démocratie, la cohésion nationale. Est-ce que la RDC a rempli ses engagements?
Alors, si vous voulez des exemples, bien entendu, regardez en matière de recherche réconciliation nationale, parce que c'est le terme qui est dans l'accord, réconciliation nationale. Nous l'avons traduit, le chef de l'État l'a traduit en termes de cohésion nationale. Il y a eu un forum. Ceux qui ont voulu en toute liberté y participer, c'était la très grande majorité. Je ne parle pas simplement du point de vue quantitatif, mais je parle aussi du point de vue qualitatif. Ont pu le faire, et en toute démocratie, ceux qui n'ont pas voulu sont restés à l'extérieur. Mais nous avons fait un grand pas de ce point de vue-là. Là aussi, il reste...
Mais est-ce qu'on peut parler des réconciliations lorsqu'il y a certains Congolais qui n'ont pas participé à ce grand forum
national? Mais madame, il faut savoir ce que nous voulons. Si nous voulons la dictature, allons-y. Si nous voulons cheminer vers... chacun a le droit de dire oui à une proposition... par rapport à celui qui dirige, il a le droit également de dire non, et que cela doit pouvoir être respecté. Moi, j'ai beaucoup de respect par rapport à nos compatriotes qui n'ont pas voulu y aller. Mais il ne faut pas vouloir tout et son contraire. Lorsqu'on a dit non, il faut assumer et considérer que ceux qui ont dit oui, c'est aussi des Congolais qui ont le droit d'avancer, voyez-vous. Donc, ne disons pas tout et son contraire.
Alors, M. Mwamba, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Sake dans la province du Nord Kivu.
Monsieur Bauer est depuis Goma en province du Nord Kivu. La crise dans la région des Grands Lacs n'aura jamais la solution à des accords aussi longtemps qu'on continuera à négliger certains acteurs impliqués. La paix durable n'est possible que si le Rwanda accepte un dialogue avec le FDLR, l'Ouganda avec ses ADF et la RDC avec toutes les milices internes sans exception. Le contraire n'est que éterniser le cycle de violence.
Alors, nous sommes allés un peu vite en besogne. On va reprendre pour vous cette réaction qui vient de Sake.
Elle est intéressante, elle mérite d'être...
Oui, vous allez répondre aussi à cette question, mais vous avez une question appropriée pour vous qui vient de Sake au Nord Kivu.
Thierry Moussine Lukala qui origine depuis le Nord Kivu, plus précisément à Sake. Je voudrais que le coordonnateur de ce cadre, à la personne de François Mwamba, nous dise quelles sont ses attributions, ses tâches, parce que les informations que nous avons affirment qu'il n'y a aucune tâche qui ait été attribuée par rapport aux membres de ce cadre et qu'il nous dise quel est le temps que cela va durer pour qu'on ne parle plus de ça en République démocratique du Congo parce que ça n'existe pas parmi les institutions de la République.
Alors, il veut parler du comité national de suivi. Quelles sont les attributions de ce comité national ou du coordonnateur de ce comité national de suivi? Parce qu'il y a aussi certains observateurs qui estiment que qu'on ne sent pas vraiment le travail du comité national de suivi. Vous ne communiquez pas suffisamment sur le travail que vous faites.
Vous avez vous-même commencé cette émission en indiquant qu'il y avait une conférence débat que nous avons organisée.
Oui, c'est par rapport
ne disons pas tout et son contraire. De la même manière, je salue les compatriotes qui a posé la question, mais il a dit deux choses dans sa question. Il a dit qu'il a des informations. Quelles informations? Et puis il a posé une bonne question. Quelles sont vos attributions? Parce que quand il dit informations, je m'attendais à ce qu'il dise lorsqu'il lit l'ordonnance créant le MNS. Il a des inquiétudes ou des préoccupations par rapport à ça, parce que cette ordonnance non seulement crée, mais établit quelles sont les missions du MNS. Donc, en vertu de cette ordonnance, en effet, notre rôle, ce n'est pas de faire des réformes en République démocratique du Congo. Il ne faut pas nous attendre là où ce n'est pas notre rôle. C'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a en charge les réformes. Et beaucoup de ces réformes, du reste, ont eu leur source, leur origine, avant le mois de février 2013. Par exemple, en ce qui concerne la police, c'est depuis au moins 2005 que ça a commencé. Alors, d'une manière précise, lorsqu'on a signé, lorsqu'on a pris les fameux 6 engagements qui ont été rappelés par un de vos journalistes, il s'est posé la question de savoir, est-ce que la République démocratique du Congo, contrairement au passé, va pouvoir cette fois-ci, d'une manière diligente, mettre en œuvre ces engagements? Parce que pour les autres partenaires, c'était le prix à payer par la République démocratique du Congo pour obtenir les appuis que nous avons obtenus. Et la réponse du président de la République est que nous allons mettre en place un mécanisme ayant pour rôle non seulement de monitorer ce qui est fait, mais de jouer le rôle catalyseur. Lorsque vous me voyez répéter déjà à 2 ou 3 reprises la question concernant la police, je ne suis pas dans, je constate, je suis dans, je fais la promotion pour que cette réforme aboutisse, et cette réforme a besoin d'argent, il faut donc qu'on corrige ce qui a été fait. Merci. Donc voilà, nous sommes là pour monitorer, nous sommes là pour jouer le rôle catalyseur pour que ce qui doit être fait le soit.
Merci
par ceux-là qui
doivent le faire, c'est-à-dire le gouvernement. J'espère que Thierry est satisfait de cette réponse. Professeur Arsène Mouaka, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN, quel est le bilan que vous vous dressez une année après de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba?
Merci beaucoup. Je crois que la question se pose beaucoup plus à terme de savoir dans quelle mesure nous, la République démocratique du Congo, notre gouvernement s'est acquitté de ces engagements qui se retrouvent dans cet accord cadre. D'autre part, l'appréciation aussi va dans le sens de dire dans quelle mesure nous avons amené les autres à s'acquitter de leurs obligations, puisqu'il est aussi de notre devoir d'amener la communauté internationale, d'amener les voisins à pouvoir s'acquitter de leurs obligations. Donc c'est beaucoup plus à ce terme. Et en revenant sur la première question, bon, je crois que le constat est clair, c'est qu'une année après, on a pris tout le temps, puisque nous avons l'habitude d'avoir le temps, les autres ont la montre, on a pris tout le temps, même pour nommer le coordonnateur qui est devant moi, on a pris trop de temps, de telle sorte que parfois on se demande si nous avons intérêt à des bonnes choses qui sont dans cet accord cadre. Donc, il y a 6 éléments qu'il va falloir peut-être passer à revue, peut-être qu'on n'aura pas assez de temps, mais je pense que sur le plan de l'armée, si les choses peuvent s'apprécier en termes de résultats sur le terrain, mais je crois que tout le monde reconnaît que la réforme qui a commencé il y a très très longtemps décourage même les donateurs qui parfois se désengagent. C'est-à-dire on se demande si oui ou non nous voulons réformer notre armée. Est-ce que nous voulons recréer notre armée?
Vous avez l'impression qu'il n'y a pas, que ce processus de réforme de l'armée prend beaucoup de temps, qu'il n'y a pas de volonté à pouvoir réformer les secteurs sécuritaires?
Beaucoup trop de temps, de telle sorte que même quand il y a de nouveaux éléments tels que les nominations et autres, ces actes continuent à suivre le désordre ancien plutôt que de s'insérer dans une nouvelle philosophie. Quand on voit du côté de la consolidation de l'autorité de l'État, c'est vrai qu'il y a quelques actes bons. Je vois à Kinshasa maintenant, on peut téléphoner dans une voiture, ça a relevé ses vitres et autres. Mais je crois que ça doit continuer. Quand on regarde du côté du Katanga, le phénomène Bakata Katanga et la légèreté avec laquelle cette question est traitée, eh bien on se demande si vraiment on est en train de s'acquitter de nos obligations. À d'autres termes, nos obligations vont dans le sens de la bonne gouvernance, la décentralisation. De plus en plus, le Premier ministre rétrocède un petit rien aux entités administratives décentralisées. Mais est-ce qu'il y a un suivi de la gestion de ces petits riens, puisque on voit pousser des chantiers des autorités politico-administratives là où on verrait pousser des chantiers de l'État. Et la promotion du développement économique, les infrastructures sociales de base, ainsi de suite. Donc, est-ce que vraiment on sent qu'il y a une accélération du côté du gouvernement? Et en fait, les objectifs de réconciliation, C'est vrai qu'on a organisé les concertations. Je suis parmi ceux qui ont refusé d'aller dans ces forums, tout simplement, puisque le jeu était piégé d'avance. Bon, le coordonnateur a dit qu'il faut respecter ceux qui sont allés. Nous les respectons et nous respectons à 10 ans que la réconciliation à la fin du processus n'est pas obtenue. La tolérance... je crois qu'il y a des actes d'intolérance, les événements récents sur Kamere, aujourd'hui même au Hopoenga sur l'honorable Fayulu, où une police se permet d'arrêter un député, tout simplement parce qu'il fait signer une pétition. C'est des choses qui montrent que nous avons encore des problèmes de démocratie et parfois, carrément, ceux qui sont durs estiment que nous sommes dans un recul démocratique, c'est-à-dire il y en a qui pensent qu'on peut continuer à faire du mobutisme sans Mobutu. C'est-à-dire qu'on peut empêcher à un citoyen congolais d'exercer son droit à l'opposition. C'est un droit constitutionnel qu'on ne peut pas négocier. Donc il y a des choses qui prouvent suffisamment que nous n'avons pas encore commencé à nous acquitter de nos engagements. Et l'autre volet, c'est
donc,
savoir...
il n'y a pas d'avancée.
Il n'y a pas d'avancée
suffisante. Le bilan pour vous est négatif.
C'est très timide. C'est-à-dire, on veut la chose et son contraire. On fait des concertations à gauche et de l'autre côté, on traque des opposants. C'est anormal. C'est très anormal. Dans quelle mesure nous avons poussé les autres à pouvoir s'acquitter de leurs obligations? Je crois qu'il ne suffit pas de constater seulement que le Rwanda a continué à entretenir nos oppositions armées et ainsi de suite. Il faut plutôt poser la question, quels sont les efforts que notre gouvernement a eu à fournir pour pouvoir pousser le Rwanda à respecter ce qui est écrit? Dans quelle mesure nous avons fait pour que l'Ouganda ne s'implique plus dans nos problèmes? C'est beaucoup plus à ce terme-là. J'ai suivi des interventions telles que celle de l'honorable Lutundula. Je crois que c'est des interventions qui s'arrêtent au constat. On constate juste que les autres n'ont pas fait. Mais qui a intérêt qu'ils fassent? C'est nous. Et donc, s'il y a un gouvernement, il doit s'activer à pousser et les voisins, et la communauté internationale, et la MONUSCO à pouvoir faire les choses. On est malaisé de voir parfois l'envoyé spécial des Nations Unies pour le mécanisme de suivi
pour la région des Grands Lacs,
voir que c'est elle qui est en train de pousser pour dire bon, il faut un gouvernement, il faut ceci, il faut cela. C'est gênant. C'est très gênant. Je pense que nous devons vouloir notre propre paix, nous devons vouloir sécuriser notre pays, nous devons vouloir démocratiser le système et nous devons vouloir développer l'économie de notre pays.
Alors on va prendre pour vous, professeur Arsène Mwaka, cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Mathieu Bauer est depuis Goma en province du Nord Kivu. La crise dans la région des Grands Lacs n'aura jamais la solution à des accords aussi longtemps qu'on continuera à négliger certains acteurs impliqués. La paix durable n'est possible que si le Rwanda accepte un dialogue avec le FDLR, l'Ouganda avec ses ADF et la RDC avec toutes les milices internes sans exception. Le contraire n'est que éterniser le cycle de violence.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Mathieu Bawere?
Oui, je crois que c'est un vœu. Il émet un vœu, mais il n'y a rien qui peut se produire en politique si les hommes n'agissent pas. Et donc, il faut qu'il y ait des hommes qui vont dans le sens d'amener le Rwanda. Parce qu'on peut beau mener des opérations, par exemple, à Beni, pour ce qui est des ADF Nalu, et je note ici qu'il s'agit des opérations les plus compliquées que le M23, parce que la tendance est de faire croire à l'opinion publique qu'on a fini avec ce qui est compliqué. Peut-être. On a fini avec ce qui est compliqué pour le gouvernement, puisque là, c'est le gouvernement qui était directement menacé. Mais la sécurité qui menace constamment la population du Nord Kivu, c'est la sécurité des ADF Nalu. Plus de 20 ans, ils sont là, les FDLR. Ça fait une bonne dizaine d'années. Ils sont là.
Et il y a des opérations qui ont commencé pour traquer les ADF.
Très bon, mais on va les amener où ils ne vont pas s'évacuer comme le M23 s'est évacué en Ouganda. Ils vont se disperser dans la brousse. Et donc, il y a un grand travail diplomatique. Ceux qui disent qu'il y a une thérapie à 3 dimensions, c'est maintenant le temps qu'on voit une diplomatie active, qu'on voit des mécanismes qui sont en fait déclenchés au niveau national pour amener les maïmaïs rapidement. Mais quand on les affame et quand ils continuent à tirer sur la population, dans des cas de rassemblement, là où on les rassemble pour transiter vers le cas des élections, je crois que quelque part on se demande que veut le gouvernement. On ne peut pas vouloir la chose et son contraire.
Merci professeur Arsène Mouaka, Emmanuel Kabengele. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national du réseau pour la réforme des services de sécurité et de la justice. Vous avez participé à l'élaboration du rapport préliminaire sur l'état des lieux de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098. Qu'est-ce qui ressort de votre rapport sur l'état des lieux de la mise en œuvre de l'accord cadre? Est-ce que la RDC a respecté ses engagements? Est-ce que les pays de la région des Grands Lacs ont respecté les leurs? Est-ce que la communauté internationale a aussi respecté ses engagements?
Merci de la parole. Notre rapport essaie de retracer en analysant chacun des engagements au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Au niveau de la République démocratique du Congo, on reconnaît quelques efforts et on note pour nous que c'était des efforts. Mais ça s'inscrit en termes d'avancée timide. Ça s'inscrit en termes d'avancée timide dans quel sens? Dans le sens où on a plus noté des actes en termes de nomination des animateurs de l'organe délibérant du mécanisme national, des nominations d'un représentant spécial du chef de l'État, qui est point focal entre les mécanismes régional et international, la participation à des sommets consacrés à la situation RDC dans la région. On a également noté le fait que le mécanisme national s'est doté d'une feuille de route et des critères de suivi sur la réforme des forces armées et de la police, de la justice, des finances publiques. Cinq mois après, on se rend beaucoup plus compte. Ça, c'est, je parle plus après l'adoption et la validation de cette feuille de route. Bon, rien n'indique sincèrement un bon début d'exécution. Et on a également essayé de noter en termes d'engagement de la partie étatique sur les 6 engagements. On note un début de mise en œuvre pour 3 de ces engagements. Et 3 de ces engagements, je vois beaucoup plus les aspects concernant la réforme du secteur de sécurité, les aspects concernant la consolidation de l'autorité de l'État et la promotion des objectifs de la réconciliation, de tolérance. On vous a parlé des concertations nationales et des aspects concernant la démocratisation. Mais dans ces débuts de réalisation de ces engagements, il y a beaucoup plus d'efforts à faire et bon, je voudrais beaucoup plus m'apesantir sur la question de réforme du secteur de sécurité, plus spécialement la réforme de l'armée où on n'a pas trop connu d'avancée, où on considère qu'on est presque en train de faire du surplace. Vous savez que actuellement, il n'y a pas un plan de réforme de l'armée qui est rendu public et connu. S'il existe, il peut, et il existe, mais il n'est pas connu. Il n'y a pas, pour le moment, les textes d'application des lois organiques ne sont pas publiés, alors que les lois organiques existent. Il y a la loi portant organisation des forces armées de la République démocratique du Congo qui existe et qui préconise qu'il y ait des textes d'application qui se doivent d'être pris. Ces textes-là, du moins pour l'essentiel, ne sont pas encore pris, du moins à notre connaissance. Il y a la loi sur le statut du militaire également qui préconise un certain nombre de textes d'application. Il y a un retard dans la prise de ce texte d'application. On s'attendait également qu'il y ait un mécanisme de suivi de la réforme de l'armée, comme au niveau de la réforme de la police, on note des avancées parce qu'également il y a un mécanisme de suivi pour cette réforme. Au niveau de l'armée, on n'en note pas. On s'attendait également à ce que, au niveau de l'armée, qu'il y ait une loi de programmation. Si on se félicite pour la réforme de la police, il y a une loi de programmation, ou du moins qui se base sur un plan quinquennal qui essaie de fédérer les différentes interventions. En termes de la réforme de l'armée, il n'y a pas cette loi de programmation. Donc, vous comprenez déjà par là qu'il y a essentiellement beaucoup à faire pour qu'on arrive à une armée essentiellement professionnelle, dissuasive. Bien sûr qu'on note...
Malgré la victoire des FRDC sur
les H23. Vous savez, c'est une conjonction de beaucoup d'efforts, cette victoire. Bien sûr, on note que les FRDC ont on fait un travail de titan, mais il y a la brigade d'intervention qui a également qui est venue au secours en termes logistiques, en termes d'un certain nombre d'informations, en termes même de combat sur terrain. Donc il y a eu un appui de ce côté-là. Il y a également l'opinion publique. Vous savez que lorsque vous êtes à Goma, lorsque vous êtes au Nord Kivu, lorsque le combat se faisait, il y avait la population qui était derrière le FARDC, il y avait nous tous qui étions derrière le FARDC, il y avait les gouvernements, il y avait... Donc, c'est une conjonction de beaucoup d'efforts. Mais pour nous, ce succès doit être capitalisé, être placé dans une logique de durabilité. Parce que là, on a l'intervention de la brigade, elle ne sera pas éternelle, donc elle ne sera pas tout le temps pour appuyer les FARDC. Donc, il faut qu'à un moment donné, on arrive à avoir une armée qui jouit
donc,
de...
Donc, M. Kabengele, si on vous comprend bien sûr, par rapport à la réforme du secteur de la sécurité, vous estimez qu'il n'y a pas d'avancée?
Il y a des avancées du côté réforme de la police, mais du côté réforme de l'armée, je ne vois pas vraiment d'avancée.
Et par rapport à la consolidation de l'autorité de l'État, de la démocratie ou encore de la réconciliation nationale?
Bon, il y a quelques efforts en termes de réconciliation nationale. Il y a eu les concertations nationales que nous avons saluées. Nous avions été aux concertations nationales. Il y a eu énormément de discussions. Il y a eu des très bonnes recommandations, mais qui souffrent encore dans l'exécution. Et la première recommandation pratiquement qui a plus été exécutée, c'est celle où on a nommé les comités de suivi des recommandations de concertation nationale, mais les autres ont continué à attendre. Même pour ce qui concerne la réforme de l'armée, c'était une recommandation forte de concertation nationale. Donc on note comme quelques avancées et nous on considère que ce sont encore des avancées timides et non suffisamment éloquentes pour pouvoir déjà dire et se frotter les mains pour dire qu'on y est.
Alors, je vais prendre pour vous cette réaction de Franck qui nous écrit depuis Vienne en Autriche. Il dit ceci, les accords cadres d'Addis Abeba ont été signés comme nous le savons jusqu'ici. Il y a des aspects suivis et respectés par les États membres. Seulement, il y a un manque de bonne volonté manifeste de la part de nos voisins ougandais et rwandais pour l'observer dans son intégralité. Du moment où les deux États sont parmi les parrains du M23, c'est au gouvernement congolais ainsi que à la sincérité de la communauté internationale de contraindre ces deux États de devoir respecter leurs engagements.
Oui, merci. Et là, vous me faites souvenir, j'étais aujourd'hui à la conférence de bas du mécanisme pratiquement national. J'avais beaucoup apprécié la réponse du coordonnateur du mécanisme de suivi au niveau national lorsque une question lui était posée par rapport au respect des engagements par les autres États. Il avait plus attiré l'attention sur le fait que on doit avant tout considérer que l'accord cadre nous concerne, Congolais, avant tout. Voyons d'abord ce que nous pouvons faire. C'est d'abord notre accord cadre. Bien sûr qu'on a trop tendance à avoir plus que le Rwanda face à part. La guerre n'est pas au Rwanda. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et on a toujours tendance à voir que l'Ouganda face à part. La guerre n'est pas en Ouganda, la guerre est au Congo. Donc nous devons faire en sorte que, même si ces pays-là ne font pas leur part...
La RDC devrait remplir ses engagements.
Non seulement remplir, faire en sorte
merci.
Que...
Merci.
Ouais.
Excusez-moi, je vous interromps. Le temps est en train de passer. Okay. François Mambaye, il y a l'abbé David Ngoiluaka de Kalemi au Katanga qui dit ceci. Il semble que la RDC a tant bien que mal réalisé une bonne partie des recommandations. Cependant, elle devrait se battre pour que les autres signataires, c'est-à-dire les pays impliqués dans les hostilités, puissent aussi faire preuve de bonne volonté. Il semble que c'est ce que devrait être actuellement le rôle de la diplomatie congolaise. En effet, les problèmes de la région étant comme des vases communicants. Il est évident que la seule bonne volonté de la RDC ne va pas faire avancer le processus, mais il faut des stratégies qui contraignent les récalcitrants à respecter leur signature. La RDC peut bien respecter ses engagements, mais tant que les autres pays de la région ne respectent pas les leurs, on n'aura pas la paix dans la région.
Alors, si vous mettez juste en trois points, il a été dit beaucoup de choses, en ce qui compris donc cette question. La première chose sur laquelle je voudrais revenir rapidement, la victoire que nous avons obtenue en mettant
hors d'état de nuire. Le M23, parce que ce qu'il faut comprendre avec le M23, c'est pas que de Congolais. C'est une agression qui venait de l'extérieur, avec un agenda très précis. Mettre en place un gouvernement fantoche au solde des agresseurs à Kinshasa, si c'était pas ça, nous arrachait une partie de notre territoire. Nous étions en plein processus armé allant vers cette fameuse balkanisation. Le président de la République a dit dès le départ que pour pouvoir nous en sortir, nous allions faire de la diplomatie, nous allions faire de la politique et nous allions nous battre avec les armes. Donc je voudrais pouvoir dire que lorsqu'on parle de l'aide de la brigade, et tout ça, etc. La brigade, c'est pas Jésus hein, qui a envoyé la brigade au Congo. C'est la diplomatie, c'est le résultat d'un combat diplomatique. Vous voyez combien de fois le ministre des Affaires étrangères a fait les allers et retours à la demande du président de la République. Vous voyez combien de fois le président de la République, qui sortait pas beaucoup. Moi, quand j'étais au MLC, c'était une des remarques que je ne cessais de faire. Pourquoi notre président ne va pas sur les théâtres où se passent les choses? Combien de fois il a pris l'avion dans ce processus? C'est cette diplomatie qui nous a permis d'obtenir la brigade. Donc, la brigade n'est pas un cadeau, quelque chose qui est tombé du ciel. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu de ce point de vue-là.
Deuxièmement,
il a beaucoup été dit ici, maintenant, faisons de la diplomatie. Non. Qu'on dise, faisons plus. Je suis tout à fait d'accord. L'accord cadre, vous ne trouverez pas une ligne en termes de sanctions. Vous ne faites pas, voilà ce que vous allez payer. Parce que les relations internationales sont complexes. Les choses ne se font pas de cette façon-là. Mais en revanche, si on était sûr qu'il suffisait de signer pour appliquer, il n'y aurait pas de comité de suivi. Vous comprenez, c'est quoi un comité de suivi? C'est aussi une sorte de police, de gendarmerie. J'ai entendu l'honorable tout à l'heure faire allusion à Madame Robinson, mais pas seulement. Il y a M. Feingold, l'Américain, il y a M. Kuhn, l'Européen, il y a l'Union africaine qui a son propre dispositif. Et dans cette maison, on a Kobler, on a Soumaré et les autres. Donc, qui dit comité de suivi, dit on n'est pas sûr que les choses vont se faire comme c'était prévu. Et ne m'amenez pas à dévoiler de ce qu'on peut appeler des secrets d'État. Mais qu'est-ce que vous pensez qui se passe lorsque, à Addis Abeba, il y a au mois de mai de l'année dernière, lorsque à New York, le 23 septembre de l'année dernière, lorsque il y a encore 2-3 semaines, nous étions à Addis Abeba. Mais que pensez-vous qui se passe lorsque ces envoyés spéciaux sont là, en face de l'Ouganda? Vous ne pensez pas que c'est en ce moment-là qu'on regarde l'Ouganda et qu'on dit « Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont chez vous? Vous violez hein? Ça ne doit pas continuer comme ça. Dites-nous ici maintenant quelles sont les dispositions que vous prenez pour que ça continue pas. » Vous ne pensez pas qu'on nous dit à nous, par exemple, hein, et la loi là sur l'amnistie, ça sort quand? Parce que sans ça, les gens vont demeurer là-bas et tout ça.
Merci.
Les sanctions que vous demandez, la diplomatie, elle s'est faite tous les jours. Et la nature de ces sanctions, ne vous attendez pas à ce qu'on écrive, je ne sais pas quoi, dans cet accord. Je voudrais simplement terminer rapidement en remerciant mon collègue de la société civile d'avoir rappelé cette réponse que j'ai faite, et je voudrais pouvoir résumer ça en quelques mots. Notre bonheur dépend de nous. Nous ne pouvons pas avoir comme attitude. Nous serons heureux lorsqu'il y aura un dialogue politique au Rwanda. Nous devons avoir la possibilité, la capacité, l'aptitude d'être heureux tout de suite. Merci. Continuons à réclamer cela, continuons à signaler cela, mais n'oublions pas que ce qui va faire notre bonheur, ce sont les actes Merci. Que nous posons chez nous, et chez nous, il faut que les choses avancent.
Merci François Mwamba, professeur Arsène Mwaka. Qu'est-ce qu'il faut pour une mise en application effective de l'accord cadre d'Addis Abeba par toutes les parties?
Oui, je crois que mon regard porte beaucoup plus sur le Congo. C'est sur le Congo qui a d'abord intérêt que cet accord cadre soit exécuté. Et donc, je semble croire qu'il n'y a pas 10 000 solutions. C'est que nous devons le vouloir. Notre gouvernement doit le vouloir. Ce qu'on appelle au Congo volonté politique peut se traduire par un certain nombre d'indicateurs objectivement vérifiables. Ces genres, c'est donner un cahier des charges. c'est-à-dire notre gouvernement doit avoir son agenda, et cet agenda ne doit pas faire partie d'un secret, puisque nous sommes en démocratie. On doit dire aux Congolais dans quelle mesure on est en train de s'acquitter des engagements pris à Addis Abeba. Dans quelle mesure il y a des problèmes, par exemple, en ce qui concerne la tolérance, en ce qui concerne la démocratie, quel est le projet gouvernemental de la démocratie, quel est le projet gouvernemental de la réforme de l'armée. Ça ne doit pas être des secrets. On doit cesser de faire croire aux gens que parler de notre politique de défense, parler de notre sécurité, ça fait partie des questions de secrets d'État. Non. Rentrez sur les sites internet, vous verrez la politique de défense de l'Afrique du Sud, de la Suisse, de la France. Il y a des ouvrages publiés pour ça. Et donc, nous devons y participer. Ça doit faire des questions de société. Du moins, ce qui relève de la sécurité, du secret de défense, doit demeurer secret de défense. Et donc, on ne doit pas faire de tout secret de défense. Et donc, je semble croire que la volonté politique, c'est donner un agenda. Un agenda de tous les Congolais. Qu'ils soient de l'opposition, de la majorité, ils doivent y participer. Même de la société civile, tout le monde doit participer à cet agenda. Et c'est cela le vrai problème. Il y a absence de volonté politique, ça signifie absence d'agenda. Absence de chronogramme. Nous avons tout le temps, même pour nommer un gouvernement, nous continuons à attendre. Dans quel pays au monde on peut avoir un gouvernement démissionnaire pendant 3-4 mois? Ils sont là, ils ne peuvent pas poser des actes majeurs. Ils sont là en train de gérer les affaires courantes et on est à l'aise. Pourtant, on a des urgences. Il y a des urgences, le ministre doit être responsable, poser des actes. Il y a des problèmes dans ce pays. Je l'ai dit, même nommer le mécanisme de suivi national. Il a fallu que l'extérieur vienne nous pousser. Voulons-nous changer les choses ou pas? Voulons-nous la sécurité? Nous devons le vouloir. Et je crois que c'est la seule voie. Mais sinon, si on continue à nous pousser et nous avançons en fonction des fouets, des coups de fouet que nous recevons, de tous ces envoyés spéciaux que le coordonnateur venait de citer ici, je crois que nous allons fatiguer le monde entier.
Mais l'opposition, excusez-moi, peut-être que je me trompe, l'opposition, chaque fois que le gouvernement propose quelque chose, vous êtes toujours contre les propositions du gouvernement. En même temps, vous demandez de participer au projet du gouvernement.
Je ne suis pas parmi ceux qui demandent d'être de la majorité présidentielle. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'opposants qui souhaitent devenir la majorité présidentielle. Mais tout ce que je sais, c'est que si on nous amène une loi de la police, de l'armée, ainsi de suite, nous sommes promptes au niveau du Parlement. Nous nous sommes acquittés de nos obligations dans l'amnistie.
Merci, professeur Hassan Mouaka. Le temps file, je considère que c'est aussi comme votre conclusion. Emmanuel Kabenge, je vous pose la même question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour une mise en application effective de l'accord cadre d'Addis Abeba?
En fait, c'est juste que chacune de parties respecte ses engagements, c'est la première chose. Mais pour la partie congolaise, on est trop regardant par rapport à la partie congolaise. On pense qu'on pourrait mieux faire œuvre utile en accélérant la réforme de l'armée, et on a même donné les pistes. On a dit, en mettant en place le personnel clé des nouvelles structures de FARDC, il y a des nouvelles structures issues de la loi organique, mais le personnel clé n'est pas encore mis en place. En finalisant et publiant les différents textes d'application de la loi organique, ces textes ne sont pas presque au moins pour l'essentiel encore publiés. En finalisant et rendant public un plan de réforme des forces armées, en créant un mécanisme de suivi de cette réforme de l'armée et en promulguant la loi de programmation de l'armée. Je crois que si on s'en tient à ces préconditions, on pourrait se dire être déjà en plein pied dans un processus intéressant de réforme de l'armée.
Et la sous-région pourrait retrouver la paix? La région de Grand Lac pourrait retrouver
la paix. Bon, au niveau de la sous-région de Grand Lac, il y a également beaucoup à faire. Il y a encore une sorte d'hypocrisie entre les États de la région. Et on pense qu'on pourrait, beaucoup plus dans le cadre de la coopération judiciaire, on pourrait aider, les États de la région pourraient pratiquement aider le gouvernement, la RDC, à transmettre ces différentes personnes qui sont impliquées dans la commission des crimes.
Merci Emmanuel Kabengele et François Mamba. En 30 secondes, il faut attendre combien de temps pour l'effectivité de cet accord cadre d'Addis Abeba, que cet accord soit réellement effectif?
Vous savez, un an, c'est à la fois beaucoup et peu.
Oui, un an, c'est un an. Il faut pas non plus ne pas prendre en considération les temps qui passent. Mais tout ne pouvait pas, en termes de sécurité, en termes de stabilité, en termes de développement, qui sont les objectifs de cet accord cadre, être accomplis en 12 mois. Donc, l'essentiel maintenant, c'est que en interne, nous puissions accélérer. L'essentiel maintenant, c'est que nous puissions envoyer des signaux, des recherches de cette stabilisation qui postule que, en même temps qu'on nettoie le terrain, nous puissions fixer la règle du jeu économique dans notre pays.
Merci
parce que
François Mwamba. Je suis désolée, c'est la fin de cette émission.
On nous agresse à cause de nos richesses.
Merci à toute l'équipe de Dialogue Entre Congolais. Bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.